La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus, le Christ, notre Sauveur. Bienvenue ici à tous, bienvenue dans cette maison de prière en ce jour où nous fêtons la Réformation. Il y aura cette semaine un culte régional pour toutes les églises protestantes unies de la région. Mais aujourd'hui, c'est le dimanche le plus proche de la date et nous avons donc la joie de repenser ce moment particulier, historique, pour notre Église. Vous êtes ici chez vous, dans cette halte où vous pouvez trouver le Seigneur qui vous parle. Je vous invite à chanter dans les livrets qui sont placés au début de vos psautiers, « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Et nous louons Dieu avec le psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu, quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Que cette louange d'un roi qui cherche le secours de son Dieu nous donne aussi à louer le Seigneur. Je vous invite à chanter ensemble le psaume 101, les strophes 1, 2, 3 et 4, dans le psautier, psaume 101.
Que l'éclat est au fond de moi.
écoutons le contenu de la loi dans la Bible. Par le prophète Michée, nous pouvons entendre une recommandation que nous fait la Bible. On t'a fait connaître, je vous invite à vous asseoir, pardon. On t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel veut de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que cette parole du prophète Michée, prophète des plus petits, prophète défenseur de ceux qui sont affligés, soit notre loi. Je vous invite à chanter « Parle, parle, Seigneur ». Nous présentons devant le Seigneur et nous déposons le poids de ce qui nous sépare de lui. Seigneur Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché. J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne et surtout pas moi. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments qui ne délivrent personne et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où je m'étouffe en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors et avec les tourments qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité de ta bonté, Seigneur. Ô Dieu, combien ai-je besoin de toi ? Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce de la part du Seigneur à travers ces paroles du prophète Ésaïe. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. Que ces paroles nous réconcilient et permettent que nous vivions dans la confiance avec Dieu. Amen. confessons ensemble notre foi avec ces mots. Parmi toutes les confessions de foi possibles, voici celle que je vous propose aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons qu'il travaille en nous par son esprit pour nous apporter la réconciliation et le renouveau. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à nous rassembler pour célébrer sa présence, pour aimer et servir les autres, pour rechercher ce qui est juste et résister au mal. Nous proclamons le royaume de Dieu dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous croyons en Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Et ce matin, j'ai choisi de lire avec vous dans le petit prophète Habacuc. Un petit prophète qui nous a donné le verset si connu, « Le juste par la foi vivra ». Dans le livre d'Habacuc, au chapitre 1, versets 1 à 4. Sentence, ce qu'Habacuc le prophète a vu. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi, violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Ravages et violences sont devant moi, il y a des querelles et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et l'équité ne s'impose jamais. Parce que le méchant assaille le juste, c'est pour cela que l'équité est pervertie avant de pouvoir s'imposer. Et dans le chapitre 2, le livre d'Habacuc ne comprend que 3 chapitres, et dans le chapitre 2, au verset 2 à 4, le Seigneur me répondit, « Écris la vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle aspire à son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien. Elle ne sera pas différée. Son cœur se gonfle, il n'est pas droit, mais le juste vivra par la foi. » Je vous invite à chanter ensemble le cantique 229, strophes 1, 2, 3 et 4, dans les louanges et prières 229. Je vous invite à la prière. Seigneur, dispose nos cœurs à l'écoute. Permets que nous puissions entendre des mots qui nous réforment encore aujourd'hui, des mots qui nous permettent d'avancer dans tes voies justement, fidèlement. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Amen. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi violence sans que tu sauves? Le prophète Habacuc crie vers Dieu. Son problème à lui, à l'époque où il vit, c'est la guerre, les invasions, la violence des hommes, le sang versé, les crimes impunis. Le problème d'Habacuc est encore aujourd'hui notre problème, comme si rien ne pouvait jamais changer. Les humains déplacés, fuyant sur les routes la guerre, mourant en mer pour trouver une vie meilleure, abandonnés de tous, les humains rejetés, entassés quelque part, puis ailleurs, dans des camps de fortune, sans que la terre ne devienne vraiment habitable, comme le promettait le prophète Ésaïe. Notre problème à nous, hommes et femmes du XXIe siècle, c'est encore la guerre qui écrase les civils, en Syrie, au Yémen, et les bombes qui n'épargnent plus les hôpitaux, mais les prennent même pour cible. Notre problème à nous, comme du temps du prophète Habacuc, est aussi ce profit malhonnête, ou parfois même institué légalement, qui creuse l'inégalité entre les hommes et qui fait que la valeur du travail d'un homme ne vaut pas tout à fait la valeur du travail d'un autre. Le prophète crie à Dieu son dégoût. Sa foi lui semble vaine, son cri semble inaudible, étouffé par des siècles d'humanité injuste, d'inégalité jamais réduite, de méchanceté jamais punie. Et pourtant, la promesse de justice demeure dans la foi comme un horizon. D'autres prophètes ont crié après lui, de siècle en siècle, comme si tout restait toujours à faire. Jean le Baptiste criait aux hypocrites qui venaient se mettre en règle avec la justice de Dieu à bon compte, en demandant le baptême dans les eaux du Jourdain, semblant vouloir se purifier pour revenir le lendemain et recommencer. Il leur disait « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Il criait lui aussi. Jésus lui-même a crié aux marchands du temple « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière et vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Lui aussi a dû crier. Et sur la croix même, celui qu'on appelait Fils de Dieu a crié à ce Père qui le laissait crucifié. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment penser la justice de Dieu si rien ne semble pouvoir l'établir ? Bien plus tard, dans la solitude de sa méditation sur l'Épître aux Romains de Paul, un autre prophète criait sa révolte contre Dieu dans sa cellule monacale. Et voilà ce qu'il écrivait alors. Or moi, qui vivant comme un moine irréprochable, me sentais pécheur devant Dieu avec la conscience la plus troublée de ne pouvoir trouver la paix par ma satisfaction. Je haïssais d'autant plus le Dieu juste qui punit les pécheurs, nourrissant secrètement, sinon un blasphème, du moins un violent murmure. Je disais, comme s'il n'était pas suffisant que les pécheurs misérables et perdus éternellement par le péché originel soient accablés de toutes sortes de maux par la foi, par la loi du décalogue, pourquoi faut-il que Dieu ajoute la souffrance à la souffrance et dirige contre nous, même par l'Évangile, sa justice et sa colère ? J'étais ainsi hors de moi, le cœur en rage et bouleversé. Et pourtant intraitable, je bousculais Paul à cet endroit, désirant ardemment savoir ce que Paul voulait, jusqu'à ce qu'enfin, Dieu ayant pitié, et alors que je méditais jour et nuit, je remarquais l'enchaînement des mots, à savoir, la justice de Dieu est révélée en lui, comme il est écrit, le juste vit par la foi. Alors je commençais à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit, du don de Dieu, à savoir de la foi, et que la signification était celle-ci, par l'Évangile, est révélée la justice de Dieu, à savoir la justice passive, par laquelle le Dieu miséricordieux nous justifie par la foi. Selon ce qui est écrit, le juste vit par la foi. Alors je me sentis un homme né de nouveau et entré, les portes grandes ouvertes, dans le paradis même. Voilà ce que Luther écrit sur cette illumination qui l'a transformée. C'est dans un cri de révolte vers son Dieu que le moine Martin Luther a pu trouver l'ouverture qu'il cherchait pour sortir de l'impasse d'une théologie du péché et de la rétribution. Dans son illumination, Martin Luther découvre que c'est dans la vie du Christ même, cet homme adopté par Dieu par pur amour, que se dévoile la justice de Dieu. La vie de Jésus donnée jusqu'au bout à l'accomplissement de sa foi en Dieu était donc la clé pour comprendre ce qui pouvait sauver l'homme du péché et de la culpabilité. Quand Luther parle de satisfaction, il parle de tout ce qu'il s'inflige comme punition quand il se sent toujours pécheur devant Dieu. Rien n'y faisait avant qu'il découvre cela. Impossible d'être conforme à la volonté de Dieu par ses propres forces. Il fallait donc se laisser faire, croire, et Dieu ferait le reste comme il l'avait fait en Jésus. Bien sûr, d'autres avant Luther avaient déjà questionné ses théories sur le péché et la grâce, et parfois même ils y avaient laissé leur vie. Dès la fin du XIVe siècle, un homme comme John Wycliffe développe l'idée selon laquelle on ne peut obtenir sa sanctification par soi-même, et que ni les pèlerinages ni les dévotions de toutes sortes ne peuvent rien y faire. Wycliffe développe une théologie de la prédestination, lui qui vit dans un monde où la question du paradis et de l'enfer est omniprésente. Une prédestination dont l'homme, d'après lui, n'a aucune connaissance et c'est cela qui change tout. Dieu déciderait pour chaque homme, mais aucun des hommes ne saurait ce qu'on décide pour lui dans le secret divin. L'homme est destiné au salut ou à la damnation, mais aucun homme ne sait à quoi il est prédestiné. Nous sommes donc tous égaux devant cet inconnu. Il en résulte que l'Église invisible, celle des prédestinés au salut, est la véritable Église de Dieu et nous ne la connaissons pas. L'Église visible, elle, est disqualifiée dans son pouvoir d'intermédiaire entre l'homme et Dieu parce qu'elle peut être composée uniquement de damnés après tout. Wycliffe prône la pauvreté des chrétiens et défend une vision radicalement spirituelle du peuple de Dieu. Les sacrements comme le baptême ou la scène sont interprétés comme des actes purement symboliques qui ne sont que signes mais n'ont aucune portée réelle. Ainsi, la présence réelle du Christ est niée chez Wycliffe. Mais le peuple de Dieu, le peuple de ceux que Dieu reconnaît comme ses enfants dans sa grande liberté, est le véritable peuple qu'il s'est donné. Avec une telle spiritualité, tout homme tout à coup a sa chance devant Dieu. Cela crée une sorte d'égalité énorme pour son époque. Chaque être humain est égal à un autre devant Dieu. Et dans ce geste très réformateur, contre l'avis des autorités religieuses de son temps, Wycliffe va traduire la version latine de la Bible, la Vulgate, en langue anglaise. Et au Concile de Londres, appelé Concile du tremblement de terre, car il y eut véritablement un tremblement de terre durant le Concile de 1382, lequel fut interprété comme un signe divin par les différents partis religieux représentés, les thèses de Wycliffe sont condamnées. Au siècle suivant, le Concile de Constance condamne de nouveau cette théorie et les traite d'hérétiques, et l'on exhume le corps de Wycliffe pour le brûler publiquement, dans un déchaînement de violence. Lors du même concile, Jean Hus, le théologien tchèque, défend les thèses de Wycliffe et sera brûlé, lui, le même jour. L'étoile du matin de la Réforme, comme les protestants appellent Wycliffe, a posé toutes les bases du débat qui aura lieu plus d'un siècle plus tard dans toute l'Europe. Martin Luther doit beaucoup à ce penseur du sacerdoce universel, de cette égalité des chrétiens. Et Calvin lui doit aussi beaucoup en ce qui concerne sa spiritualité de la sobriété. Ainsi, Jean Calvin n'a pas inventé non plus la prédestination, c'était une idée qui courait déjà depuis longtemps. Et Zwingli n'est pas le premier à affirmer la portée purement spirituelle de la Sainte Cène. Réformer la relation du croyant à Dieu occupa l'esprit de nombreux penseurs avant que Luther ait cette illumination dans sa cellule. Ce que Luther décrit dans le récit de sa conversion à la justice passive et qui rejoint les idées d'abord développées par Wycliffe, c'est l'origine de ce geste incroyable opéré par la réforme dans la chrétienté de son temps. Un geste qui vise à se passer du magistère de l'Église pour trouver sa justification dans la foi seule, en regardant sa propre foi, sans qu'aucun ne vous dise ce que vous devez croire. C'est dans la foi en Dieu, celle que lui seul donne, que se trouve la clé du salut de l'homme. C'est donc en l'homme croyant que s'opère le salut, promis avec l'exemple même de l'homme croyant, Jésus le Christ. C'est ce qu'affirme l'épître aux Romains de Paul en reprenant le verset d'Habacuc, « Le juste par la foi vivra ». Paul reprend plusieurs fois dans ses épîtres ce verset d'Habacuc. Mais Paul, dans l'Épître aux Romains, est en train de poser les bases d'une orthodoxie ecclésiale qui va, au fil de temps, prendre le pas sur le message du salut du Christ. Il faudra instituer des communautés. En cherchant à organiser les communautés en églises visibles, en donnant des institutions, en créant en même temps un magistère, puisqu'il y aura des hiérarchies dans ces communautés, Paul s'appuie sur la théologie du sacrifice qui révèle le péché pour mieux l'absoudre dans la foi. Il garde l'idée très ancrée dans sa foi que le Christ est sacrifice vivant pour notre rédemption. Il ne demande pas tant aux nouveaux convertis de croire en Dieu que de croire au sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés. Une telle théorie libère l'homme individuellement de la culpabilité, mais reste dans une théorie du sacrifice. Et qu'en est-il de l'injustice réelle entre les hommes? Et peut-être premièrement de l'injustice qui a mené Jésus à la croix. Qu'en est-il de ce scandale? Dans le zèle de Paul, dans sa foi en un Dieu qui le libère de la loi de Moïse, se trouvent aussi les germes d'une morale chrétienne, d'un ascétisme qui va faire retomber les hommes dans une autre servitude, celle de la dette envers la victime sacrificielle, Jésus, le Christ. Jésus lui-même, dans ses rencontres avec ceux qui voulaient le suivre, d'après ce que racontent les évangiles, ne leur demandait pas de sacrifier leur vie. À celui qu'il relevait, il disait « Va, ta foi t'a sauvé » et non pas « Tu me dois la vie ». À celui qui lui demandait « Comment te suivre ?» Il répondait bien qu'il fallait abandonner toutes ses possessions sans pour autant lui demander de les lui donner à lui. Quant aux annonces de martyrs, elles dévoilent un appel des évangélistes à tenir bon dans les persécutions, mais sans doute pas un appel du Christ à mourir pour une nouvelle théologie. Il est difficile de croire que Jésus ait fait de sa vie un signe vivant par la croix. Il est difficile de croire qu'il ait voulu ce qui lui est arrivé quand il a été crucifié. Il est plus aisé de penser que la méchanceté des hommes s'est déchaînée sur lui comme elle se déchaîne encore aujourd'hui, sur d'autres hommes pourtant justes. Paul utilise le verset d'Habacuc en y introduisant un élément que le prophète ne pouvait pas intégrer dans sa pensée, Jésus comme Messie, Jésus comme victime d'un sacrifice. Le risque de la théologie de la justice passive que Luther semble avoir trouvé dans l'épître de Paul, c'est de faire du salut un salut désincarné, puisque les souffrances du Christ sont alors devenues spirituelles. Ce scandale deviendrait alors presque acceptable. Que veut dire être justifié devant Dieu si l'on ne parvient pas à empêcher la condamnation du juste? Et pire encore, si l'on y voit un moyen d'expiation des fautes de tous les autres. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi violence sans que tu sauves? Faut-il supprimer ce reproche sous le prétexte d'une épreuve salvatrice? Minimiser ce que crie Habacuc à son Dieu? Et si l'on supprime cette révolte du cœur de l'homme en lui donnant l'assurance de sa tranquillité, en lui disant qu'avec le salut par la foi, il est sauvé, il n'a pas à s'inquiéter pour la suite? Qui criera encore pour les pauvres, les sans voix, les invisibles, les sans domicile, les sans terre, tous ces humains sans droit que les prophètes ont défendus au cours des âges? La foi d'Habacuc, très différemment de celle de Paul, apparaît comme un cri et non pas comme la résolution d'un problème théologique. Et quand Luther relate son illumination en lisant ce verset, son entrée dans le paradis, comme il le dit, va se traduire pratiquement par une entrée en combat et non pas dans la tranquillité. Un combat avec une Église qui marchande le salut de Dieu et entretient de manière injuste la dette des fidèles. Car enfin, si l'homme est marqué ontologiquement par le péché, il n'a pas à chercher sa rédemption dans ses propres œuvres. Donc soit Dieu fait alliance avec l'homme dans son état imparfait, soit il n'est pas un Dieu sauveur et qu'il l'aime inconditionnellement. Il y a donc un problème ici, une sorte de jeu de dupes, et l'Église en a usé pour faire peur aux gens, pour leur faire acheter le paradis et faire sortir ceux qu'ils pleuraient du purgatoire. Habacuc est le prophète de l'intranquillité du croyant. Pour lui, point de salut à l'horizon, mais la guerre, la corruption, les excès en tout genre. Pour lui, pas de leçons à donner aux autres sur le Dieu auquel on doit croire. Il ne s'occupe pas de chercher à convertir ses amis ou bien ceux qui ne croient pas comme lui. Mais il évoque et il crie une protestation d'abord devant son Dieu, en vis-à-vis, en toute colère, en toute indignation. Habacuc sait que les temps difficiles ne sont pas finis. Au contraire, il frémit en attendant le jour de la détresse. Et pourtant, contre toute attente, il va sortir de sa colère par la contemplation et la reconnaissance. Dans le psaume qui conclut le livre, il dit « Mais moi, j'exulterai dans le Seigneur, je trouverai de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. » Dieu le Seigneur est ma force. Après avoir crié, s'être rebellé contre Dieu, Il trouve enfin le secours de ce Dieu qu'il essaie de contraindre à lui répondre. Et Dieu lui a répondu. Qu'il soit dans la colère contre l'injustice ou dans la confiance absolue en un Dieu qui lui donnera la force de se battre, Habacuc reste dans une relation fidèle à Dieu. Il se confie en lui, dans la colère comme dans la paix. Cette foi-là justifie sa vie, son combat pour la justice, son combat de prophète. Sa colère même est acte de foi et elle l'amène à se rendre compte que Dieu maudit avec lui ceux qui créent l'injustice. En effet, au centre du livre prophétique, 5 malédictions vont être prononcées par Dieu dans sa vision. Alors Habacuc se rend compte que Dieu est avec lui dans son indignation et qu'il n'est pas seul à vouloir que cela soit changé. Cette indignation est une révélation intime de ce qui fait qu'un homme est un homme, de ce qui l'hominise, comme le disait Théodore Monod. En le rendant capable de maudire l'injustice et de lutter contre elle avec l'aide de cette pensée de Dieu toujours en horizon, certes inaccessible dans la perfection et pourtant toujours là pour nous conduire à vouloir faire mieux, autrement. Dans ces 3 chapitres du prophète Habacuc se dessine le geste de la conversion découvert par les réformateurs. D'abord un cri vers Dieu, un constat cuisant du hiatus entre la vie des hommes, leur situation et leur humanité promise dans les Écritures. Comment cette fracture était-elle possible? Puis la méditation des Écritures et des promesses qu'elles contiennent et enfin la révélation de la grâce de Dieu toujours présente pour aider celui qui se bat contre l'injustice. Quand la foi dépasse la colère, quand la confiance en Dieu réussit à renverser cette injustice. Oui, les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs, comme le dit le psalmiste. Oui, la violence semble toujours gagner. Oui, l'injustice semble toujours la plus forte. Mais devant nous, comme un horizon, il y a la paix et la justice annoncées dans les Écritures. Et croire la paix et la justice toujours possible est une justification de la vie humaine. Croire cela, c'est croire que l'on peut devenir un homme meilleur. C'est croire que l'on peut se réformer. La réforme a annoncé que par la foi le juste vivra, non pour exempter le croyant d'agir contre le mal, non pour permettre à une église de se croire tranquillement installée dans le salut, comme si elle était enfin arrivée à la vérité. Au contraire, la réforme protestante est un cri de protestation contre la misère de l'homme et pour la dignité de l'homme. Aujourd'hui, ce n'est donc pas la réforme de l'Église que nous fêtons, mais la foi de Dieu en la capacité de l'homme à se réformer sans cesse. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le psaume 72 dans le psautier, les strophes 1, 2 et 3.
Grand merci au pasteur Béatrice Cléromazir et à Alexandre Korowitz pour son accompagnement musical. Quelques annonces. Samedi 3 novembre, Hébreu biblique découverte de 10h à 11h par le pasteur Gilles Castelnau. À 17h, Lisbeth Schlumberger, organiste co-titulaire du Temple de l'Étoile, professeur au Conservatoire national supérieur de Lyon, donnera un concert autour de Bach, Franck et Alain. Organisé par l'Atoll, ce concert sera retransmis sur grand écran, libre participation aux frais. Dimanche 4 novembre, attention, ce sera une journée sans voiture dans les premiers, 2, 3 et 4e arrondissements. Culte du souvenir à 10h30 par le pasteur Catherine Janin. L'organiste sera Aurélien Péter. Pas de garderie pendant les vacances scolaires. repas paroissial à 12h, salmono, l'inscription avant le jeudi 1er à la librairie du temple ou bien au secrétariat est vivement souhaitée. Autres dates à retenir. Éducation biblique dimanche 11 novembre de 10h30 à 16h. Vous pouvez encore vous inscrire vos enfants auprès du secrétariat ou du pasteur. Ils seront les bienvenus. La fête de Noël à l'oratoire aura lieu dimanche 16 décembre. À 10h30, un conte musical avec les enfants de l'éducation biblique. Le chœur de l'oratoire et les scouts nous entraînera en Nouvelle-France avec les réfugiés huguenots. À 12h, brunch de Noël pour tous. À 13h30, concert de Noël par le chœur de l'oratoire. Libre participation aux frais. Notez bien ce rendez-vous pour un moment joyeux. Bon dimanche, c'est maintenant le temps de l'offrande.
À l'issue de ce culte, nous avons préparé un pot d'accueil pour tous ceux qui veulent se réunir et rencontrer d'autres personnes de l'Église. Vous êtes tous les bienvenus à ce temps d'accueil. Pendant cette sainte cène, du jus de raisin est à disposition des personnes qui ne peuvent pas boire d'alcool du tout. Et vous serez gentils de venir me rejoindre à cette table pour partager la cène avec moi. J'ai donc ici du jus de raisin. Nous entrons dans ce temps de la scène. Je vais inviter les délégués de l'entraide et du conseil presbytéral à me rejoindre pour servir ce repas du Seigneur. Nous louons Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige. Il nous a rendus libres de te servir à son exemple. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude pour le pardon des péchés ». Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous prions ensemble. Père invité à cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus le Christ, de sa mort et de sa résurrection. Et dans la confiance, nous te présentons notre monde. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux que tu nous mets en mémoire, que nous portons en nous aujourd'hui, dans la foi, dans la communion fraternelle, et pour lesquels nous voulons te prier pour que tu les bénisses. Nous te les remettons maintenant dans le silence. Seigneur, pour tout cela, que ta volonté soit faite. Nous te remettons tous les peuples de la terre, tous ces êtres humains qui sont tes enfants, comme nous sommes tes enfants. Tous ceux qui souffrent de la guerre, de la méchanceté des hommes. Permets, Seigneur, que les artisans de paix ne se découragent jamais. Que nous soyons de ceux-là. À toujours dire que notre foi est espérance pour ce monde. Seigneur, nous te remettons tous ceux qui ont besoin de notre prière, de notre aide, de nos actions. Permet que nous soyons présents là où ton humanité souffre. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux issus de la réforme qui ont besoin de ton aide pour continuer à proclamer ta parole avec cette liberté que les réformateurs ont voulu pour chaque homme. Donne-nous cette fidélité. Permet que nous soyons toujours attentifs à nos propres paroles et que nous nous laissions convertir sans cesse. Nous te remettons celles et ceux qui nous sont chers, ceux de cette Église, ceux qui sont en deuil en ce moment et qui ont demandé à notre Église la bénédiction, le réconfort et la consolation. Seigneur, reprends tous ceux qui sont à toi et bénis-les. Et ensemble, nous pouvons dire dans la confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous sommes tous invités au repas du Seigneur. Tous, il nous invite. Aucun n'est empêché dans ce repas. Le pain que nous partageons est signe de la présence de Jésus, le crucifié. Le vin que nous partageons est le mémorial du sang du Christ, le ressuscité. Je vous invite à faire cercle autour de cette table et il y aura donc des cercles successifs et vous repartirez par les allées latérales. Merci. Venez car tout est prêt. Allez, frères et sœurs, et que cette nourriture vous aide à vivre la justice du Seigneur dans vos vies. Frères et sœurs, allez avec la force que le Seigneur vous a donnée dans ce repas. frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne sa nourriture chaque jour qui vont suivre. Je vous invite à regagner vos places. Frères et sœurs, voilà, nous avons vécu cette journée de la Réformation. Vous êtes évidemment invités à l'église Saint-Marcel cette semaine pour fêter cette fête avec tous les autres protestants de notre église de la région, donc mercredi soir. Je vous invite à vous lever pour être envoyés, exhortés et bénis. Frères et sœurs, allez, soyez porteurs d'équité, de justice, de bonté autour de vous. Même si le mal persiste, vous êtes capables sans cesse de réformer ce monde. Ayez l'audace de le faire sur les pas du Christ. Recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Amen.